audio.
Salut, ici Alexis Delancère et bienvenue à Ça s'explique. Ces temps-ci, rares sont les semaines qui passent à Montréal sans qu'une fusillade ne soit rapportée par les médias. Évidemment, l'inquiétude, elle est vive dans bien des arrondissements. Seulement au mois de septembre, imaginez, le service de police de Montréal a recensé près d'une trentaine de fusillades. Et sans surprise, la lutte contre la violence armée s'est hissée au sommet des priorités des candidats à la mairie de Montréal et aussi celle de certaines de ses banlieues. Au cœur du problème, dit-on, les gangs de rue, un phénomène dont les contours nous échappent. Des éclaircissements sont nécessaires. Notre question, dans quelle mesure le phénomène des gangs de rue gagne en importance à Montréal et quelles en sont les conséquences? Notre invité,
René-André Brisebois, praticien-chercheur à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté.
Et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois.
La quiétude et la sécurité dans nos quartiers, elle est prioritaire, c'est absolument prioritaire et on y tient. C'est inacceptable qu'il y ait des groupes qui règlent leurs comptes ainsi dans nos rues.
Montréal a besoin de quiétude. Montréal n'est pas sécuritaire présentement. Et on a besoin d'envoyer des messages très clairs à la population.
Valérie Plante et Denis Coderre, deux des candidats à la mairie de Montréal, qui s'exprimaient au lendemain d'une fusillade très médiatisée qui a fait 3 morts dans le quartier de Rivière-des-Prairies. C'était au début du mois d'août. Et encore une fois, le spectre des gangs de rue a rapidement été brandi. Mais René-André Brisebois, dites-nous, avant d'aller plus loin, là, qu'est-ce qu'on entend au juste par gang de rue en 2021?
Premièrement, il faut spécifier qu'il n'y a aucune définition qui est bien consensuelle ou adoptée par tout le monde. Là. Donc, je vais vous donner un exemple de définition là, qui représente bien quand même l'ensemble du phénomène. Mm-hmm. On parle d'abord d'un groupe de jeunes. Donc, ça prend un aspect jeunesse. Donc, ça prend des adolescents au sein même de ces groupes-là. Il y a aussi un aspect durable dans le temps. Donc, ça peut pas être des groupes qui se forment spontanément. Donc, ils ont un certain lien. Puis, on estime environ là, un minimum de 3 mois là, qui se côtoient, qui se fréquentent. C'est également des groupes qui sont qu'on qualifie orientés vers la rue, là, c'est-à-dire qu'on voit leur présence dans les espaces publics, que ce soit au niveau de leur criminalité ou tout simplement qu'ils soient présents, qu'ils s'affichent, que ce soit dans les parcs, le métro ou autres. Donc, ils sont visibles dans les endroits publics. L'autre chose, c'est l'élément de criminalité. Donc, c'est des groupes qui nécessairement sont actifs sur le plan criminel. Ça peut pas être des groupes d'amis là, donc non criminalisés. Là, c'est systématiquement de la criminalité associée à ces groupes-là. Et en terminant, ça prend une identité collective, donc un élément qui les rallie, qui font en sorte qu'il y a une certaine cohésion au sein du groupe.
Oui, règle générale, voilà pour la définition de base. Moi, ça fait près de 40 ans que je suis arrivé à Montréal. J'ai toujours entendu parler, ou presque, depuis que j'ai usage de conscience, de ce phénomène-là, parce que ça fait longtemps que c'est là. Ça fait longtemps qu'on vit avec ce phénomène.
Tout à fait. Les premières fois où on en a parlé au Québec, là, c'est vers le milieu des années 80. Et c'est principalement justement des journalistes qui se sont intéressés à la question et qui ont importé, je dirais, ce terme-là des États-Unis. Donc, aux États-Unis, on parlait des street gangs. Et à l'époque, on a commencé à coller cette étiquette-là, je dirais, à Montréal, donc à certaines jeunesses, plus particulièrement issues de l'immigration haïtienne. Donc, on se préoccupait de certains comportements délinquants de ces jeunes-là. Et on est venu à coller cette étiquette-là, gang de rue, qui à la base n'était pas nécessairement admis et accepté, là, dans, je veux dire, même par nos autorités en place. Ça a pris quelques années avant d'être considéré comme un réel phénomène. Mais du moins, il y avait des préoccupations, je dirais, et le nom est sorti là, à partir des années 80. Donc, effectivement, ça fait un petit bout de temps.
Réglait jadis à coup de poing, ça règle maintenant avec les armes à feu.
Francis Renaud, commandant de la division du crime organisé au SPVM. Il était ici en entrevue avec ma collègue Marie-Michèle Lauzon. Le commandant Renaud décrivait l'évolution de la situation sur le terrain. Autrement dit, l'évolution du portrait des gangs de rue. Monsieur Brisebois, à vos yeux, comment ce portrait a-t-il évolué au fil des ans?
Bien, il a effectivement beaucoup évolué et sur différents aspects. Donc, la violence en est un. Donc, ça a bien été identifié. Là, effectivement, on parlait beaucoup plus d'armes blanches au départ. Ça s'est transformé davantage vers les armes à feu. On sait qu'il y a un problème ou du moins une facilité d'accès aux armes à feu, une plus grande disponibilité aujourd'hui que ce l'était auparavant. Mais le phénomène a évolué sur d'autres aspects, dont la question de l'âge. Au début, on parlait beaucoup de jeunes adolescents qui vivaient une expérience là, très transitoire à l'adolescence, oui. Alors qu'aujourd'hui, on a des adultes qui sont impliqués dans cet univers-là, puis des adultes même des fois dans la quarantaine, cinquantaine. Donc, le spectre d'âge s'est étiré. Donc, on a des très jeunes adolescents à partir de 12 ans, mais jusqu'à 40 et même 50 ans. La question du territoire. Donc, quand ça a commencé, on parlait beaucoup de jeunes qui contrôlaient un certain parc, un coin de rue, ou tu sais, c'était vraiment très limité. Aujourd'hui, les territoires sont beaucoup plus grands pour ces groupes-là. Donc, on va parler de contrôle d'un quartier, voire même de ville. En termes de criminalité également, il y a eu une évolution. Donc, au début, il y avait beaucoup de petits délits, de la petite délinquance pour se défendre, pour faire un peu l'argent. Aujourd'hui, certains groupes sont beaucoup plus dans les délits lucratifs, mais vraiment orientés vers le profit. Donc, ça aussi, ça s'est transformé au fil des années. Et la question aussi de l'organisation. Au départ, on dépeignait les gangs comme étant des groupes très désorganisés, non structurés. Aujourd'hui, on voit que certains de ces groupes-là se sont davantage justement organisés et structurés. Ont développé des alliances avec d'autres organisations criminelles, ce qui a permis de voir cette évolution-là là, au plan de la structure. Donc, c'est un phénomène qui a effectivement beaucoup évolué depuis quelques années.
Le conflit qui fait probablement le plus d'événements et le plus de victimes, c'est un conflit entre un gang qui s'appelle les Profit Boys ou Profit Collectors contre un autre gang surnommé les Zones 43.
Daniel Renault, un des journalistes les plus aguerris au Québec sur la scène criminelle, travaille maintenant à la presse et qui évoquait ici le nom de deux bandes criminalisées dont on entend beaucoup parler ces jours-ci et qui sont dans le sillage d'autres bandes criminalisées qui ont fait leur marque au cours des dernières années.
Il y a quelques années, là, quand on parlait des gangs de rue, on parlait beaucoup des bleus et des rouges. Hein. On se rappelle, là, c'est, quand on parlait des bleus, c'est les Crips, les rouges, les Bloods. Donc, on parlait des gangs de rue qui étaient associés à ces différents regroupements-là ou à ces différents consortiums-là. Là, ce qu'on constate aujourd'hui en termes d'évolution ou de portrait actuel, c'est que les groupes ou les gangs d'aujourd'hui s'identifient beaucoup moins à ces consortiums-là. Donc, c'est beaucoup plus leur groupe qui est pris et justement dont ils font la promotion. Et c'est ce qu'on constate aussi, c'est que des groupes qui traditionnellement étaient en alliance aujourd'hui peuvent être en conflit et vice-versa. Donc, des groupes qui étaient anciennement en conflit peuvent être en alliance. Ce qu'on constate, c'est que la couleur du gang perd de l'importance. Ce qui prime, c'est davantage le profit, d'avoir des objectifs communs. Là. Donc, à ce moment-là, ce portrait-là a complètement changé là, au niveau des gangs.
Et si on parlait de Montréal en tant que ville, comment elle se compare à d'autres villes de même taille ou des villes un peu de plus grande envergure? Au Canada, par exemple, à ce chapitre, comment se compare à Montréal?
Oui, si on prend l'exemple des homicides là, qui seraient liés aux gangs ou aux crimes organisés, il faut savoir qu'au Canada, on estime qu'environ 20 à 25 % des homicides qui seraient liés justement aux différentes organisations criminelles. Habituellement, le Québec se colle bien aussi à ce portrait-là canadien, là, donc la moyenne canadienne, en sachant que dans les provinces de l'Ouest, généralement, c'est des pourcentages plus élevés là, liés à ces criminalités-là de groupes, de gangs. On constate que depuis quelques années, là, le Québec, justement, tend à avoir un peu plus des niveaux d'activité de violence et d'homicide là, plus élevés, donc qui commencent à ressembler à d'autres provinces là, qui ont justement ces niveaux de violence-là de manière plus élevée. Par contre, ce qu'il faut amener comme nuance, c'est qu'il y a aussi faut savoir que c'est des données policières, hein, c'est de l'information policière, des déclarations officielles qui sont faites, et c'est pas fait de manière uniforme à travers le pays, donc certains corps de police peuvent dénoncer davantage ou identifier des situations reliées à des gangs ou le crime organisé, alors que d'autres peuvent le faire moins. Donc, il faut faire aussi attention avec ces statistiques-là.
Myriam Bendaoui est morte après avoir été atteinte à la tête par le projectile d'une arme à feu. Le suspect, armé, était cagoulé et à bord d'une voiture de luxe. L'adolescente se trouvait entre le tireur et sa cible lorsqu'elle a été touchée.
When I have heard the news, I don't know. I didn't. I thought that it was a dream. It was a dream.
Quand j'ai entendu la nouvelle, je n'y ai pas cru. J'ai cru que c'était un rêve. La peine et le désarroi de Safia Boundaoui lors d'une entrevue accordée à la CBC. Une balle perdue a emporté sa sœur de 15 ans, Meriem Boundaoui, en février dernier lors d'une fusillade dans l'arrondissement de Saint-Léonard. Une victime collatérale, en somme, qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Monsieur Brisebois, pourquoi cette recrudescence de violence au cours des derniers mois à Montréal?
Il faut remettre le contexte de violence justement en perspective, c'est-à-dire que dans les gangs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles des conflits violents peuvent éclater. Je peux vous en nommer quelques-uns, mais entre autres, dans cet univers-là, la question d'imposer son respect ou de gagner un certain statut, ça fait partie des éléments là, qui expliquent des fois la montée de la violence. De vouloir défendre son territoire, de défendre ses intérêts financiers, donc des fois c'est pour une question d'affaires, je dirais. À d'autres moments, ça peut être parce que justement des personnes se sentent en danger ou sentent qu'il y a de la menace qui peut survenir de n'importe où, donc ils veulent décider de s'armer pour se protéger. Mais en faisant ça, sont plus propices aussi à utiliser leur arme à feu, entre autres. Et l'autre chose, c'est parfois, c'est pour résoudre leurs conflits qui sont souvent liés à leur réputation personnelle. Donc, des fois, les conflits peuvent vraiment partir de ces éléments-là de base et dégénérer, donc, en escalade de conflits. Donc, quand on constate de l'escalade de la violence là, entre les groupes, c'est souvent soit pour prendre un contrôle ou un avantage sur un marché criminel en particulier ou bêtement, des fois, associé à des conflits personnels qui dégénèrent. Et à ce moment-là, les membres de chacun des groupes se retrouvent dans un tourbillon là, qu'ils doivent répliquer à tour de rôle là, pour assurer la réputation de leur groupe.
Et moi, ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est que ces conflits que vous décrivez dégénèrent aussi sur les réseaux sociaux. C'est là désormais aussi où les groupes criminalisés, les gangs de rue s'affrontent, non?
Bien, en fait, c'est comme si ça se poursuit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de poursuivre ces insultes-là, ces attaques, ces ripostes-là. Ça vient parfois justement mettre de l'huile sur le feu. Donc, l'univers numérique et des réseaux sociaux, c'est clairement un élément qui contribue à exacerber les tensions et les conflits. Donc, ça fait partie de notre nouveau paysage contemporain là, lié aux gangs, effectivement.
Liées aux armes à feu, la violence qui perturbe et inquiète nos citoyens et nos familles, ici à Montréal, dans la grande région de Montréal et partout au Québec d'ailleurs, c'est assez.
C'est assez. Québec passe à l'action. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, annonçait donc la mise sur pied de l'opération Centaure. C'était le 24 septembre dernier. Ça, c'est une opération qui vise à fournir davantage de ressources aux corps policiers pour lutter contre la violence armée. C'est souvent ça la solution qui est mise de l'avant, plus de ressources pour la police. Comment s'attaquer au problème? Quelles sont les pistes de solutions à envisager si on regarde ça sur un spectre un peu plus large?
Oui, effectivement, il y a d'autres solutions à envisager. La répression, c'est sûr que c'est un moyen important pour neutraliser, calmer le jeu, mais c'est clairement pas ça qui va régler le problème sur du long terme. On n'a qu'à penser à l'image là, d'une blessure où on pose un pansement. Bien, si on n'a pas guéri la blessure à la base, bien, ça va être difficile justement d'assurer la guérison et de prévenir les futures infections. Fait que si on voit le problème sous l'angle de santé publique plutôt que sécurité publique, on va agir différemment. Si on veut agir sur les causes du phénomène, bien, on doit s'attaquer justement aux causes même du problème, c'est-à-dire les inégalités sociales et économiques. Donc, ça prend, veut pas, de penser aux familles qui vivent dans des conditions d'extrême précarité économique. Donc, on a besoin de travailler auprès de ces familles-là, de leur offrir des services, du soutien, de l'aide. On n'a pas le choix. Moi, j'ai travaillé avec des familles, justement, là, qui avaient des revenus extrêmement faibles et qui devaient cumuler des emplois. Bien, en cumulant plusieurs emplois, bien, malheureusement, ils ne peuvent pas être présents pour leurs enfants et leurs enfants bien, sont nécessairement laissés un peu pour compte, sans surveillance. Donc, on voit après comment le portrait peut se dérouler. Donc, ça, c'est faut investir auprès des familles. Il faut s'attaquer aussi aux causes liées à la discrimination, les formes de marginalisation et d'exclusion sociale Pour faire ça, bien, on a besoin d'aller vers les jeunes, nos jeunes les plus en difficulté, justement pour leur offrir du soutien, des alternatives, des opportunités sociales, leur offrir des aspects là, au niveau de l'employabilité. Donc, il faut davantage travailler leur intégration sociale. Ça aussi, c'est une des pistes pour travailler le problème sur du long terme. Et bien sûr, quand il y a un contexte comme celui qu'on vit actuellement, où il y a de la violence qui éclate, de la menace, il faut savoir que, oui, on doit assurer une sécurité dans le quartier, mais la sécurité ne passe pas uniquement par la présence policière, mais ça peut être aussi par la présence de personnes significatives qui sont là pour écouter les jeunes, pour parler avec les jeunes, pour créer un lien avec eux, justement pour que si les jeunes se sentent menacés, qu'ils puissent se confier à eux plutôt que d'aller s'armer et après ça d'user de leur arme ou de leur violence.
Ce que vous décrivez, c'est du travail en somme de terrain, d'intervenants sociaux, communautaires. C'est cette proximité-là qu'il faut tenter de recréer ou de créer auprès de cette jeunesse qui parfois dérive vers les gangs de rue.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment en travaillant sur ces différents fronts-là, tant au niveau de la prévention, de l'intervention auprès de nos jeunes les plus impliqués et les plus à risque, et bien sûr la répression, c'est en combinant ces différents efforts-là qu'on arrive à des résultats beaucoup plus porteurs.
Puis est-ce qu'on sait s'il y a des exemples ou des modèles à suivre ailleurs? Je peux pas croire qu'il n'y a pas des initiatives dont on pourrait s'inspirer.
Vous faites bien de le nommer parce qu'effectivement, il y a plusieurs initiatives qui existent, des programmes, entre autres, qui ont été développés aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, des programmes qui ont été évalués, qui ont fait leurs preuves. Donc, on pourrait effectivement s'inspirer de ces programmes-là. Premièrement, il y a des programmes qu'on qualifie de type de dissuasion ciblée. Donc, c'est vraiment là, d'aller cibler particulièrement les contrevenants, les personnes les plus actives sur le plan criminel, sur le plan de la violence armée, et d'aller passer le message qu'à partir de maintenant, tout geste violent avec arme à feu ne sera plus toléré. Donc, il y a un aspect très répressif sur ça. Mm-hmm. Par contre, les programmes qui ont fait leur preuve, c'est ceux qui incluent une dimension sociale, justement, dans l'intervention. Donc, offrir des opportunités à ces personnes-là. C'est une chose de leur dire, on vous suit à l'œil et on vous a à la trace. Par contre, on veut s'assurer que vous receviez des services et que vous ayez des interventions nécessaires pour vous aider, pour vous en sortir. Donc, ça, c'est une chose d'offrir des alternatives. Et l'autre chose, d'autres types de programmes qui ont fait leur preuve, c'est des programmes qu'on qualifie de type holistique, c'est-à-dire où il y a différents partenaires qui travaillent au sein de la communauté ensemble pour résoudre le problème, c'est-à-dire qu'ils visent à identifier les causes, justement les sources du problème, à développer une initiative concertée et à pouvoir travailler sur les différents fronts, donc justement en offrant des services de prévention, d'intervention et de répression. Donc c'est vraiment ces différents programmes-là, dès qu'ils incluent une dimension social dans leur intervention, c'est là que ça porte fruit et c'est documenté là, justement par des programmes qui ont été évalués.
Oui, et voilà qui permettra à ces jeunes de déboucher sur des horizons un peu plus prometteurs. Mission accomplie avec cette discussion avec vous, René-André Brisebois. Voilà qu'on est allé droit à l'essentiel en ce qui concerne ces gangs de rue et les problèmes que ça engendre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée.